Radio FMR, bonjour et bienvenue, merci de nous écouter en direct sur le stream Ogvorbis ou sur la bande FM sur 89.1 à Toulouse ou sinon sur le podcast de l'émission qui va suivre. Nous sommes le samedi 21 mars 2009, nos programmes pour cet après-midi à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires à l'infirmerie suivi d'une histoire musicale, à 15h ce sera du reggae normalement avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR, c'est de l'antenne avec Booster FM sur les 89.1 MHz en modulation de fréquence et continuera ses programmes sur le signal international en stream en Ogvorbis. Mais dans l'immédiat, voici le documentaire des Beaux-Arts que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end.
20 ans, je vais te dire un truc, c'est l'âge de ménageuse. Et ménageuse, moi, j'ai fou dans un bassin, puis j'ai fait bosser toute la journée. Alors que les guignols, si tu veux, ils ont le plaisir de se renouveler, quoi. Ceci dit, moi, j'avais une naseuse qui se renouvelait assez au niveau des mecs.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks avec du sport, Ultimatum, Das Critch et la participation exceptionnelle de JB.
Et bonjour et bienvenue donc, pas de Thomas par contre cette semaine, mais JB lui sera là présent pour faire une chronique qui sera donc costaud, il n'y a pas de souci. D'un autre côté, si vous avez écouté donc l'interview de Daniel Herzog la semaine dernière, Daniel, je tiens une fois de plus à le remercier pour nous avoir accordé cette interview de plus d'une demi-heure de nous avoir fait le plaisir et surtout l'amitié de nous appeler, de nous s'être confié. Si vous n'avez pas pu voir la soirée d'anniversaire des 20 ans des Guignols, vous avez manqué quelque chose de très fort. Ceux qui l'ont vu vous l'ont peut-être déjà spoilé, sinon voilà. Et pour ceux qui n'ont pas écouté donc cette interview, je vous invite à la réécouter sur le flux sur le podcast de l'émission sur le site supplementweekend.fr. Vous allez dans les précédentes émissions, vous allez dans les spéciales et puis c'est tout. Ceci dit, cette semaine on a une longue interview qui a été enregistrée à Angoulême. C'est une interview que je tenais à faire depuis un bail, depuis octobre, parce que c'est un nom qui est connu dans la bande dessinée, mais qui jusqu'ici n'était connu, je veux dire, que dans un milieu relativement fermé, et qui maintenant on trouve dans toutes les librairies spécialisées de bande dessinée. Et à mon avis, c'est plus à bon escient qu'autre chose. Daniel Maguin, c'est un nom qui claque dans la bande dessinée. C'est un galeriste de planches originales de dessinateurs. C'est une sélection d'œuvres reconnues qu'on peut consulter, qu'on peut acheter, et une adresse à Paris. 47 quai des Grands Augustins. C'est dans le 6e arrondissement. C'est juste sur la Seine, devant les bouquinistes et pile devant le Louvre. Inutile de dire qu'on fait difficilement plus prestigieux et mieux pour hisser le 9e art au même rang que la peinture, la sculpture et la littérature. Cela fait 20 ans qu'il propose des collections qui viennent directement de chez les dessinateurs. Et à côtoyer les originaux, il a tenté, depuis l'an dernier, le pari de devenir éditeur. Des albums d'une qualité irréprochable, mais surtout au prix étonnamment abordable. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlerai de Canoë B, dessiné par Patrick Pugne sur un scénario de Tibur Sauger. L'album est plus grand que le format Delcourt, que vous connaissez sûrement. La couverture plus épaisse, le papier d'une qualité nettement supérieur, ça se sent, pour une pagination double. Et tout ça pour le prix à peine supérieur, en fait, justement, par rapport à un album de chez Delcourt ou chez Soleil. Prix sur lequel l'éditeur reversera 40 centimes à Action contre la faim pour Canoë B. À ce stade, un livre d'art quasiment au prix d'un album de bande dessinée. On est surpris, et tant mieux, heureusement surpris. Et en même temps, les planches originales et crayonnées, les recherches de Patrick Pugne, sont exposées et proposées à la vente dans sa galerie jusqu'à fin mars. Est-ce qu'un galeriste qui se lance dans la publication de bande dessinée sort un catalogue de vente ? avant tout, c'est une histoire qui est racontée dans l'album, et son travail d'esthète met superbement en valeur justement l'œuvre des auteurs. J'avais dit tout à l'heure que nous avions loupé plusieurs fois l'interview de Daniel Maguin, et il a accepté de le faire lors du festival d'Angoulême, malgré la fatigue. C'est une interview qui est assez riche et qui fait découvrir par son parcours comment justement la bande dessinée sort du cadre d'art de reproduction s'installer dans les galeries d'art. Et comment passe-t-on de Daniel Maguin, galeriste, à Daniel Maguin, éditeur ? Daniel Maguin, justement, interviewé à Angoulême, c'était en janvier dernier.
Daniel Maguin, bonjour.
Daniel Maguin, enchanté.
Tu es galeriste de bande dessinée, ta galerie est d'ailleurs très connue dans le secteur et très connue à Paris. Mais avant de passer justement à en faire un métier, quand as-tu acquis ta première planche ? Qu'est-ce que c'était ?
Alors déjà, Xavier, bonjour et enchanté, merci de m'accueillir dans ton émission. C'était une mauvaise blague de fin d'Angoulême fatigué, et c'est dur et difficile de faire des blagues quand on est en fin de festival. Écoute, moi j'étais un passionné de BD comme toi, j'imagine. J'ai faisais les séances de dédicace de bande dessinée quand j'avais 18 ans. Et au bout de 6 mois, j'ai rencontré... il y avait une dédicace à la Fnac Terne où il y avait Arnaud, Bebdeum et Beltran. Moi, j'étais fan du travail d'Arnaud. Il m'a dit, viens voir mes originaux. Je sais pas ce que c'est qu'un original. Je suis venu chez lui, dans son atelier. C'était magique. Il m'a dit, écoute, je vends mes planches originales entre 500 et 700 francs. Je lui ai dit, c'est pas possible. C'était le prix à l'époque d'une sérigraphie ou d'un tirage de tête. Il n'y avait pas de marché pour les planches originales. Il y avait énormément de collectionneurs de tirages de tête, de sérigraphies, de livres, de premières éditions. Et en fait, j'ai fait un prêt étudiant pour acheter ces planches en me disant au départ, voilà, je vais acheter 20 planches, je vais en vendre 15 et je vais me garder 5 planches pour moi, ça va payer les 5 planches que je veux pouvoir conserver de l'auteur que j'adore. Donc ça a démarré vraiment comme ça, et j'imaginais pas en faire mon métier.
T'as acheté un tiers d'album pour commencer ?
Je sais plus ce que j'ai acheté exactement, une vingtaine, une trentaine. J'ai dû faire un prêt étudiant de 10 ou 15 000 francs à l'époque, en 89, et puis, et puis voilà.
Et du coup, en fait, comme ça a marché, tu as commencé comme ça, enfin pour le coup, de ce côté-là, mais après, comment tu en es venu au fur et à mesure à monter ta galerie et à en faire une adresse ?
Il y a eu différentes étapes. Au départ, j'ai fait tous les festivals de bande dessinée. Avec les quelques planches que j'avais pu acheter, j'ai pris des contacts, et une fois que j'ai eu suffisamment de contacts, j'ai été voir des auteurs en leur disant, écoutez, au moins, contrairement aux autres, je vous achète une ou deux ou trois ou quatre ou cinq planches, je m'engage à les acheter maintenant, pas les prendre en dépôt, donc je prends un petit risque, j'ai pas beaucoup d'argent, je vais prendre une faible marge, mais si vous me faites confiance, ça va marcher et je reviendrai vous voir. Donc j'ai dit ça, à l'époque les auteurs en question c'était Julliard, Le Gall, Blanc Dumont, Wolf, Isler, Stalner. Ça a mis beaucoup de temps, je faisais le VRP avec mes planches originales si tu veux, j'allais dans toutes les villes de France et j'allais voir les clients sur rendez-vous, ils me voyaient dans ma chambre d'hôtel avec les planches. Ça a mis, il y a eu quelques années comme ça, j'étais allé aux auteurs de me faire des illustrations parce que c'était plus facile de vendre des illustrations que des planches. Donc j'ai demandé à Franck Le Gall, à Blanc Dumont, de me faire des illustrations. Souvent quand tu allais chez quelqu'un collectionneur c'est plutôt quelque chose de masculin. La femme du client, elle était moins emballée d'acheter une planche que d'acheter une illustration. C'était plus décoratif, une illustration est plus facilement accessible. Donc j'ai, pendant 5 ans, j'ai fait du porte-à-porte comme ça. Comme j'étais très dynamique et que c'était une passion absolue, qu'il y avait que ça qui comptait dans ma vie, ben finalement ça a marché. J'ai créé une clientèle en Belgique, en Suisse, en France. J'ai ouvert une première galerie en 96 à Paris. J'étais galeriste et libraire. J'ai fait une exposition Julliard, une exposition Le Gall, une exposition Wolf, une exposition Isler. J'ai édité des premiers marque-pages, des sérigraphies, des affiches à ce moment-là. Le truc, c'est que j'étais pas seulement galeriste, mais aussi libraire. Donc en fait, je me retrouvais c'était un boulot énorme que j'appréhendais pas. Et du coup, je passais plus de temps à m'occuper de la vente des albums et des dédicaces que d'aller voir mes clients pour les planches. Et le problème à cette époque-là, c'est que la clientèle était en Belgique, un peu aussi en Suisse, mais pas à Paris. Donc je devais aller à l'étranger pour financer la galerie de Paris, donc ça n'a pas pu tenir. Si tu veux, quand j'ai démarré quand j'ai rencontré Arnaud, j'ai vu ses originaux, il n'y avait pas d'endroit où tu pouvais acheter des planches originales à Paris. Le seul endroit possible qui existait, c'était l'arrière-boutique de chez Album. il fallait montrer patte blanche auprès de d'Yves Rasquin, le propriétaire de la boutique à l'époque, et il montrait ses planches uniquement aux gens qui connaissaient. Et c'était un commerce qui n'existait pas officiellement. Donc il a fallu beaucoup de temps. Donc j'ai ouvert cette première galerie en 96. J'en ai ouvert une en... Au bout d'un an, je suis parti en Belgique. Je suis revenu. En 98, j'ai ouvert un site qui était le premier site où il y avait des planches originales avec des prix indiqués. Donc à ce moment-là, j'ai contacté des auteurs importants. Des auteurs comme Vance, comme Bilal, comme Manara... ça a commencé à vraiment prendre. J'ai vendu beaucoup de planches de Vance, beaucoup de planches de Manara, beaucoup de planches de Bilal. Et une clientèle qui avait grandi, qui avait plus d'argent. Et j'ai toujours eu à l'esprit de rouvrir une galerie. J'ai rouvert la galerie en 2003. La force qu'on a et la spécificité de la galerie, c'est comme moi, ça fait depuis 20 ans donc, que je vais voir les auteurs, j'achète des planches, je les vends, je les contacte, je discute avec eux. À la galerie, il y a un choix qui représente les 20 ans de collaboration avec des auteurs. Donc il y a des originaux de 300 à 400 auteurs, ce qui fait 8000 originaux. La galerie, évidemment, n'est pas assez grande pour tous les exposer. Mais les gens qui viennent à la galerie peuvent voir des originaux de 300 auteurs différents. Il n'y a pas d'équivalent, malheureusement. J'espère qu'il y aura un équivalent un jour. Ça veut dire que si tu au CNBDI, tu ne peux pas du tout voir autant d'originaux. Ouais. Au Musée belge de la bande dessinée, pareil. Les originaux sont dans des coffres. Donc c'est vraiment, en tout cas, un endroit où même beaucoup de dessinateurs viennent voir comment travaillent leurs collègues, les techniques, les formats, tout ça. C'est un bonheur d'être au milieu de toutes ces planches, surtout quand tu sais pas dessiner, tu sais pas écrire. Il y a rien de mieux qu'être au milieu de la création. On fait deux expos par mois, donc on est très dynamique et on a en plus le fond des auteurs dont je t'ai parlé.
Alors, puisque tu parlais justement, tu disais au tout début que tu as dû faire un prêt étudiant pour acheter les planches originales. Est-ce que finalement la clientèle, elle ne vient pas par le fait que ceux qui ont lu passionnément les 13 et tout ça quand ils étaient ados, maintenant, ils ont acquis des postes sur lesquels ils peuvent se payer, je dirais, ce genre d'œuvre?
Bah exactement. Moi, quand j'ai démarré, il y a 20 ans, je faisais des photocopies des pages que j'envoyais aux clients. Parce qu'il n'y avait pas internet, tout ça. Et la plupart des fans, quand j'ai dans les salons, des gens qui voyaient mes originaux, ils trouvaient ça superbe, mais ils ne pouvaient pas se les payer. Donc heureusement, moi j'ai plus 20 ans, hein, j'en ai bientôt 40. Donc et les clients aussi. Donc on a une génération de clients, je dirais qu'entre 28 et 60 ans, mais on a un bon noyau dur de clients qui ont entre 28 et 40 ans, qui sont des passionnés et qui maintenant peuvent s'acheter une planche. Ils peuvent les payer en 3 fois, en 4 fois, donc c'est quelque chose de facile. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'officialiser et de créer un marché qui n'existait pas. C'était qu'un marché souterrain. Il y avait quelques marchands belges qui venaient à Paris. Première convention de la bande dessinée à l'époque, il y avait des conventions de la bande dessinée où tu pouvais voir, le seul endroit où tu pouvais voir des planches, et il n'y avait pas de prix dans les books des marchands. Donc moi, j'étais le premier à prendre un stand et mettre des prix sur des planches. Donc c'est à faire des pubs où je disais, voilà, vous pouvez acheter une planche. À la galerie, tu peux trouver des planches de Manara à 5000 euros, mais aussi des crayonnés magnifiques de Pèlerin à 60 euros. La prochaine exposition qu'on va faire, ce sera Chabouté. C'est vraiment très raisonnable. Tu peux acheter une planche de Chabouté qui, pour moi, un auteur vraiment de tout premier plan, entre 300 et 400 euros. Tu vois, donc c'est... Il y a une grande diversité, une grande variété, et on peut se faire plaisir à acheter une pièce unique pour un prix démarré avec des auteurs talentueux pour des prix qui sont encore tout à fait raisonnables.
Est-ce que la surproduction actuelle du nombre de bouquins qui fait que mécaniquement il y a moins d'exemplaires qui se vendent ne bouscule pas cet état de fait justement ? T'as des auteurs qui se retrouvent maintenant avec des ventes qui commencent à se réduire parce qu'il y a trop de bouquins qui sortent en même temps. Il y a donc une explosion de planches originales. Comment toi tu vois cette mutation, ce côté de la crise, comme le mot maudit a été lâché en juillet dernier?
Moi, mon activité n'est pas touchée par la crise, parce que le marché de la peinture, il existe depuis les grottes de Lascaux. Le marché des planches de BD, il existe depuis 20 ans. Donc c'est quelque chose qui ne peut que se développer. Moi, quand je disais que je vendais des planches, quand j'étais en fac et je suis pas resté longtemps, on pensait que j'étais menuisier et j'étais vraiment le loser, celui qui savait pas dessiner, qui essayait de vendre le travail de ceux qui savaient dessiner. Maintenant, j'ai une galerie. Les gens viennent, il y a des expos, on se fait plaisir. Pour ce qui concerne le marché des originaux, ça ne peut être un marché qui peut que se développer. Évidemment, c'est comme chez un éditeur. Pour te donner une idée, sur mon chiffre d'affaires de l'année passée, il y a 15 auteurs qui ont fait 50% de mon chiffre d'affaires et 285 auteurs qui ont fait les 50% restants. Ça veut dire que les gens, il y a les locomotives, les têtes d'affiche, les grands classiques, et il n'y a que 5% ou 10% des auteurs qui sont demandés, même pas 3%, les autres, il faut les faire connaître. Donc il ne faut pas rêver, il y a des auteurs pour qui la vente des planches va être quelque chose d'important, qui va même les aider à faire de la bande dessinée. Tu vois, si des auteurs qui sont plutôt lents, qui font de la BD en 2 ou 3 ans, même des auteurs importants.
J'imagine que ça ne doit pas être évident pour certains auteurs de se séparer de leurs originaux. Ça doit être un crève-cœur quoi, quand même pour certains.
Les réactions sont très différentes. Une bonne partie des auteurs n'ont pas de dimension affective avec leurs originaux, et une autre ont une dimension affective avec leurs originaux. Ça dépend. Quelqu'un comme Vance, je pense qu'il est attaché à une petite partie de ses originaux. Quelqu'un comme Gibra, il est attaché à une petite partie de ses originaux. Pellerin est très attaché à ses originaux. Zwolf est attaché à une petite partie de ses originaux, sans plus. Donc après, il y a des auteurs pour qui c'est pas possible, mais 95% des auteurs vendent leurs originaux. Après, soit parce que finalement ils préfèrent les vendre et puis faire fructifier leur notoriété, bénéficier d'un nouveau marché qui se crée tout simplement, soit parce qu'ils en ont besoin pour vivre et pour créer. Donc 90% des auteurs qui vendent leurs originaux, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, et 10% parce qu'ils ont choisi de le faire, parce qu'ils jugent qu'il faut faire partie de cet engouement et qu'ils préfèrent que les planches soient chez des passionnés qui aiment leur travail plutôt que dans leur tiroir et leur carton à dessin. Mais 90% des auteurs y vendent parce que c'est difficile de vivre de la bande dessinée.
Toi, tu travailles exclusivement avec les auteurs. C'est une garantie justement pour éviter tout le problème avec le trafic des planches volées.
Un auteur n'appartient à personne. Il y a des auteurs avec qui on a un historique très ancien. Gibra, Julliard, Zwolf, Pellerin, Vance, des auteurs, beaucoup d'auteurs avec qui je travaille depuis 10 ou 15 ans, 20 ans. Et il y a des auteurs récents, nouveaux, heureusement. Là, on va faire une exposition Chabouté. Après, on va faire une exposition Prado. Après, on va faire une exposition Colman. Il y a Topi à nouveau, qu'on a exposé l'année passée. Donc, si tu veux, il y a un certain nombre d'auteurs avec qui ça se passe bien. Mais il y a d'autres auteurs, il faut que nous on fasse un bon travail pour qu'ils continuent à bosser avec nous. Et puis inversement, malheureusement, si il n'y a pas une demande importante, on ne peut pas forcément continuer. Donc je te dirais que voilà, on préfère évidemment travailler avec des auteurs sur la durée, c'est ce qu'on préfère. On tend vers ça. Mais autant qu'un auteur n'appartient pas à un éditeur, un auteur n'appartient pas à un galeriste, mais c'est différent pour l'activité de mettre en avant les œuvres. Ce que je disais à un auteur espagnol, hein, pour l'édition, il peut travailler avec 5 éditeurs différents, ça n'a aucune importance. Pour la vente des œuvres, il vaut mieux qu'ils choisissent la personne avec qui ils travaillent. Nous, à la galerie, on est 6. J'ai une attachée de presse qui s'occupe de la galerie une bonne partie du temps. On fait des expos très régulièrement, on envoie 3000 invitations, on a un lieu qui est un lieu prestigieux et agréable. On est en face des bouquinistes, en face du Quai des Orfèvres, entre le Louvre et Notre-Dame, sur les quais de Seine. Donc ça, c'est des arguments qui font que 80% des auteurs qu'on contacte, ça se passe, nous choisissent et ça se passe bien. Après, voilà un petit peu le profil de notre activité.
Les planches originales vieillissent, des fois elles sont tachées, des fois carrément on les gratte pour enlever le lettrage ou les onomatopées pour les versions internationales. Il y a même des fourgues peu consciencieux qui les coupent pour les revendre en petites cases, en doses individuelles. Est-ce que toi tu fais de la restauration de planches de ce côté-là ?
Moi, je suis quand même concerné à 5 ou 10% par ce problème, parce que mon activité est plutôt concentrée sur les auteurs modernes et contemporains. Bon, là, on fait une rétrospective Mitac. Donc, on a des planches des années 50, 55, 58. On a fait Tibet aussi, on a eu des planches pareilles de 55, 50. Et j'ai de temps en temps des collections d'originaux qui arrivent, mais rarement. Ça arrive que j'ai des planches des grands maîtres classiques. Moi j'envoie les clients chez un restaurateur et moi c'est plus tellement ma partie si tu veux. C'est le client, on lui vend la planche telle qu'elle est, après on lui dit voilà, c'est à toi de voir si tu veux la faire restaurer ou pas. Mais je te dis, ce problème là en ce qui me concerne, il se pose 1% ou 1% ou même 0,5% du temps. Je préférerais qu'il se pose plus souvent, je préférerais faire des expos RG, Franquin et Uderzo plus souvent. Mais si pour Mitac, si un client veut aller restaurer sa planche, je l'envoie chez le restaurateur et puis il s'arrange avec lui. Moi, c'est pas mon activité première.
Tu t'es lancé dans l'édition. La première surprise, quand j'ai vu les bouquins que tu as édités sous ta marque, c'est la qualité du papier, la qualité de l'impression, la qualité de la reliure, le dossier à la fin. 15 euros, ça fait seulement 3 euros de plus qu'un Delcourt. Comment tu arrives à ce prix? C'est parce que tu es une structure finalement d'édition qui est très légère, ou parce que peut-être que les éditeurs ont des faux frais que toi tu n'as pas à avoir?
Tu vas répondre à cette question.
Je sais, elle est piège.
Écoute, c'est un choix d'avoir. On a essayé de faire des albums avec plus de contenu, qualité d'impression de publication qui soit élevée et pour un prix à peu près égal aux autres. C'était ce qu'on essayait de faire des albums qui soient dans la continuité des bouquins qu'on fait sur les auteurs qui sont pour moi j'estime des albums de la qualité d'édition limitée à des prix presque d'édition normale. On a essayé de faire ça. Après, si tu veux, moi j'ai lancé ma collection de bande dessinée en me disant que j'allais essayer de faire les plus beaux albums possibles. Et j'ai pas forcément pensé en termes de rentabilité. Donc je suis pas un très bon chef d'entreprise pour ce qui est l'économie. C'est clair que j'aurais dû mettre ces albums plus chers pour gagner plus d'argent. En même temps, il fallait lancer une marque, faire connaître un petit peu les éditions. Donc ça, pour moi, ça fait partie de ça fait partie d'une marque qu'on met en place et puis il n'y a pas de calcul de rentabilité à court terme par rapport à ces albums. Donc c'est plutôt la chance et la possibilité d'avoir une activité comme celle de la galerie qui me permet de faire les albums de la manière que je veux. Maintenant, l'activité d'édition de bande dessinée, il faut qu'elle soit autonome, qu'elle s'équilibre et qu'elle vive d'elle-même. C'est à ça que j'aspire. Sur le livre qu'on sort sur Prune, la Canoë Bay, l'album qui est un album que moi je trouve exceptionnel, on a rajouté un supplément de...
Pas un dessinateur.
Cromwell, un excellent dessinateur, superbe dessinateur.
Anita Bomba.
Voilà. Donc sur Canoë Bay, on a mis un supplément de 24 pages, on a un album de 104 pages qui est à 16,50€. Qui est sur un format plus grand que les autres. Bon, là j'ai fait le choix sur les autres albums, j'ai mis un gros budget publicité. Là j'ai décidé de mettre moins de publicité, de mettre plus de sous dans l'album lui-même. Donc c'était. Mais sinon, pour répondre à ta question, je pense que mes albums coûtent très cher et si je les vends moins cher que les autres, c'est que. Ou alors à un prix à peu près équilibré par rapport à la qualité, c'est parce que je me mets à la place du lecteur final, parce que j'ai réagi comme un passionné et que c'est les albums que moi j'aimerais voir en tant que passionné. Voilà.
Comment évolue ton métier par rapport à la progression de la création numérique? Parce qu'on voit de plus en plus de dessinateurs, ça a commencé principalement par la couleur et le lettrage, mais maintenant qui travaillent exclusivement en numérique. On va prendre comme exemple Bajram qui a fait Universal War One, le tome 6 exclusivement avec Photoshop. Est-ce que tu penses qu'il y a possibilité dans ce cas-là de proposer une reproduction de très haute qualité ou finalement c'est ben tant pis, c'est un patrimoine qui ne va pas rester, qui va rester coincé dans des formats de fichiers qui ne sont pas ouverts, qui seront condamnés à être frappés d'obsolescence programmée?
Te parler de patrimoine, c'est difficile pour moi dans cette. Enfin, comment je vois les choses, moi je me mets à la place de. Du passionné qui va acheter une planche ou de parce que c'est ce que j'étais au départ si tu veux. Donc je vais dire quelqu'un comme Bajram il faut qu'ici on fait une expo ensemble, il doit produire des dessins pour des expos. Donc C'est le fait qu'il fasse ses planches à l'informatique. Bon, bah oui, pourquoi pas. Moi, je peux pas les vendre. Moi, je vais pas vendre des tirages. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est. J'ai dit aux gens, n'achetez pas de sérigraphie, n'achetez pas de tirage de tête. Les quelques affiches qu'on vend à la galerie, elles sont des prix entre 5 et 20 euros. Parce qu'à partir de 60 euros, ils peuvent se payer un crayonnet de pèlerin, si tu veux.
Ouais, c'est...
Un vrai original. Donc, ceux qui travaillent en informatique, je comprends tout à fait. La base, quand même, de la bande dessinée, c'est pas de faire des beaux originaux, mais de faire un beau livre. Donc, chacun sa technique. Là, on a sorti un album avec Malnati. Le premier était à l'acrylique. C'était magnifique. Le deuxième, il fait tout à l'ordinateur. Bon, il m'a dit, ça t'embête pas, Daniel. J'ai dit, écoute, il se trouve que c'est mieux. Il se trouve qu'il est meilleur. Donc, ok, qu'il y aille.
Donc, les plus grands Espostunes, déjà, le premier tome, hein, était d'un très haut niveau.
Donc, qu'est-ce que je vais dire excuse-moi.
Sur Malnati, oui, qui était passé au numérique. Donc,
maintenant, il y aura toujours des gens comme Gibra, comme Lepage. Là, j'ai vu l'Axe, j'espère l'exposer avec lui. J'espère faire une exposition avec lui en mois de novembre. Lui, il travaille en traditionnel. Il n'y a plus les bulles dans les planches, il les fait à part parce qu'il est sensible au fait que les originaux soient le plus beau possible. Donc il y aura toujours la place pour des gens comme Lepage, comme Gibra, comme Pellerin, comme Julliard, des grands maîtres à l'ancienne pour moi, ou des nouveaux dessinateurs virtuoses comme Chabouté, comme Dumonteuil, enfin bref, il y aura toujours la place pour les deux. Après oui, qu'est-ce que tu veux exposer dans un musée quand il y aura un musée de la bande dessinée? Oui, on exposera des tirages, il n'y a rien qui remplace. Pour moi, les œuvres de BD, je les vois comme les tableaux des grands maîtres classiques. C'est comme ça que je les vois.
Daniel Maguin, merci beaucoup.
Merci Xavier, merci à toi.
Je vais te laisser, je crois que tu as encore un carnet de balles très 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 rempli. Bientôt Angoulême qui se termine et les yeux qui aimeraient quand même un petit peu se reposer.
Merci Xavier, bon courage à toi aussi.
Voilà, Daniel Maguin, dont on va parler tout à l'heure justement de la nouvelle sortie des nouveautés, Canoë B, donc sur un dessin de Patrick Prugne qui illustre donc une histoire originale de Tiburce Auger. Et donc c'est un éditeur, mais aussi donc un galeriste d'art. Si jamais vous êtes à Paris, ou si jamais vous allez à Paris surtout, n'oublions pas que nous on diffuse depuis Toulouse, sachez donc que c'est 47 quai des Grands Augustes, dans le 6e arrondissement de Paris. Et sinon il y a le site internet Daniel Maguin, Daniel Maguin MAGHEN.com, sur lequel il y a des planches qui sont exposées, il y a aussi son activité d'éditeur et tout le reste. h 29 et 30 secondes sur l'horloge atomique de Radio FMR. Tiens, j'ai oublié de ramener une horloge. Non, celle-ci, elle fonctionne. Non, elle est en panne. Bienvenue à la radio, comme d'habitude. Et il y a la régie publicitaire qui me dit que cette pub, c'est une spéciale dédicace pour Benoît XVI. Je veux bien y croire, mais je sais pas ce que je... Alors, je passe, tout bêtement.
Chaque jour, 8500 hommes, femmes et enfants meurent du sida. Le sida ne fait pas de distinction et tue chaque mois 260 000 d'entre nous. Faute de soins, d'informations, de prévention, faute de moyens, 3 millions de vies s'éteignent chaque année. Les chiffres ne veulent-ils plus rien dire? Le sida existe toujours et plus que jamais. Pour le vaincre, nous avons besoin de vous. Tous. Faites un don. Appelez le 110.
Le supplément week-end, émission numéro 192 sur Radio FMR 89.1 MHz en direct et sur le podcast. On a parlé tout à l'heure donc d'un album de bande dessinée. Daniel en parlait donc en janvier dernier quand a été prise cette interview. Et cet album est sorti avant-hier chez vous libraires. Il s'agit donc de Canoë B, qui est une histoire complète. Scénarisé par Tiburce Auger et dessiné par Patrick Pugne, qui donc sort chez Daniel Maguin éditeur. Pour situer un petit peu le cadre, on va dire qu'une fois de plus, la France et l'Angleterre s'entre-déchirent. Oh non, c'est pas sur un green de rugby, ce serait trop facile. Non, c'est bien de guerre dont il est question. Une vieille tradition qu'ils ont réussi à exporter dans leur colonie des Amériques. Louis XV défouraille et les populations de colons trinquent. Jack, lui, est né orphelin. Sa mère est morte quelques jours après sa naissance et son père n'a jamais pu le voir. Il sait juste que sa mère est irlandaise, son père est un français et il est éduqué à la dure dans les orphelinats. Et ensuite, il y a eu la déportation des colons français d'Arcadie. L'Arcadie est une région du Canada, par les Anglais, et ça va l'envoyer comme matelot dans un navire. Un navire qui participe en fait au commerce triangulaire et qui fournit en main-d'œuvre nègre les grandes colonies de l'Ouest. Le pauvre gamin se prend un autre choc, sans compter les marins ivres qui aimeraient bien abuser des tout jeunes matelots. Jack aurait très bien pu mal finir s'il n'y avait pas un vieux marin pour le sauver, Lucky Roberts. Paternel, bienveillant, Lucky Roberts aurait pu être le père ou le grand-père qui lui manquait. Mais il a décidé de mener une mutinerie et surtout de relancer la piraterie et vogue la galère. C'est ainsi que Jack se retrouve pirate à la recherche d'un improbable trésor entre les Antilles hollandaises et le Québec, poursuivi par les Anglais depuis qu'ils ont pris en otage la fille du commandant Prisseltown. Une histoire qui vogue sur les grandes légendes de la piraterie, mais aussi sur les conséquences des lointains conflits entre la France et l'Angleterre dans le Nouveau Monde, où les Indiens, pardon, on dit maintenant Amérindiens, sont présents sans être vus. Tiburce Auger raconte une grande aventure où les sentiments de chacun sont profondément marqués par ce qu'ils vont vivre, où les amitiés vont se nouer et les esprits de Jack et de ses camarades grandir. Les images de Patrick Pugne en couleur directe sont absolument magnifiques et fait profiter le lecteur de carnet de croquis à la fin. C'est porté d'ailleurs par une reproduction d'une qualité absolument sans faille. L'album a un souffle épique formidable, porté par la grande histoire et par les mythes que les hommes se forgent eux-mêmes. Et pour rappel, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, pour chaque album acheté, 40 centimes d'euros est reversé à Action contre la faim. Tiburce Auger au scénario, Patrick Pugne au dessin, Canoë B, c'est une histoire complète qui vient de sortir chez Daniel Maguin, éditeur. J'ai pas pu résister au plaisir. Donc je vous dis juste que le fond sonore que vous entendez derrière, c'est Sigur Rós Ný Batory, et c'est extrait de l'album Agaitis Beach Run, que j'ai laissé filer pour le fond sonore donc de cette première chronique. Néanmoins, on va passer à littéralement autre chose. On va changer complètement d'univers. Zou, voilà. C'est sûr, même c'est un petit peu technique. C'est comme ça, puisqu'on va plutôt passer cette fois-ci dans le manga avec Yukito Kishiro, qui est un dessinateur. C'est l'un des rares mangaka hein, qui travaille quasiment seul, même s'il a pris entre-temps un assistant. Mais je veux dire, c'est vraiment un artisan de ce côté-là dans le manga, avec le rythme de parution du manga, c'est-à-dire au minimum 20 planches par semaine, ce qui est absolument immense. Gunman Last Order, le tome 11, est sorti chez Glénat. Et ben on suit toujours Gali, donc les aventures de cette jeune fille qui était ramassée dans la décharge, que on a appris que en fait elle était une grande combattante de Mars et tout ça, et Gali était désintégrée à la fin du tome 10. On se disait que l'histoire était terminée. Que nenni, il se trouve que le grand tournoi du Zot continue et on arrive aux demi-finales. Les opposants sont de plus en plus bourrins, même pour un tournoi d'art martial cybernétique. Par exemple, Anor Mali, qui se trouve être un animal plus qu'un humain, aux instincts les plus bestiaux, guidé par sa libido et qui écrase ses adversaires avec sa bite en érection. Ou encore le reste de l'équipe de Gali, Zex, qui se retrouve face aux plus grands combattants construits spécialement pour la compétition par les industries lourdes de Jupiter. Un guerrier aux transformations multiples, mais pile poil au gabarit pour être autorisé sur le ring. Gali reviendra bien sûr, dans un Deus Ex Machina improbable, quasi christique et pourtant logique. Logique car Gunm, Last Order, se déroule juste avant la conclusion de Gunm, où l'on voit Gali se régénérer par des nanomachines, de la même manière que le fait l'infâme Destinova. Mais le problème, c'est que l'on sent une certaine lassitude de Yukito Kishiro, qui avait créé un univers original, vivant et délirant, mais qui s'est laissé enfermer par le train-train de séries au long cours dont il ne voit pas la fin, mais dont il a fixé lui-même l'issue. Obligé à aller de plus en plus spectaculaire, mais aussi de plus en plus vite, son trait est toujours aussi pertinent et expressif, et finalement nous scotche littéralement à la lecture. Et voilà, c'est pour ceux qui suivent la série principalement. Yukito Kishiro, Gunm, Last Order, le tome 11 donc est sorti chez Glénat. Quittons la science-fiction, mais restons dans le fantastique. Toujours avec le même auteur, scénariste, dessinateur, Yukito Kishiro, pour Aqua Knight, le premier tome, donc, qui est sorti chez Glénat. Marmundo, donc, c'est un immense monde, c'est le monde donc, de cette nouvelle série qui s'appelle Aqua Knight, qui est sortie chez Glénat, créée par Yukito Kishiro. Et Marmundo est un immense monde constitué d'un océan liquide et d'archipels dispersés, des empires constitués de lambeaux de terre éparpillés sur un immense monde liquide. On dit qu'au-delà de l'océan, l'eau se jette dans un vide insondable. Une île phare minuscule est complètement à l'écart des grandes routes maritimes. Elle est tenue par Arabir, un vieil illuminé qui veille sur la boule de lumière éternelle comme si c'était sa femme, et un jeune garçon qu'il a appelé Petit. Un micro-univers en autarcie qui ne connaît rien du vaste monde et où tout est innocence pour Petit. Jusqu'au jour où y échoue une armure de chevalier aquatique. Grande excitation de Petit qui n'a jamais vu un truc pareil et qui ne se doutait pas qu'existait autre chose, quelque chose au-delà de son horizon. Arabir, qui n'avait vu ça depuis des années, y répond tant bien que mal. Une jeune femme, Perula, est inconsciente dans l'armure. À son réveil, bien évidemment, Petit va la presser de questions et ouvrir ses rêves. Voilà qui va bouleverser cet écosystème. Yukito Kishiro avait lancé cette série après Gunm, mais celle-ci n'avait pas réussi à accrocher son public dans la durée. Et c'est après cette série qu'il s'est lancé dans Gunm Last Order. Le démarrage est lent, car il prend le temps de faire découvrir ce nouvel univers. Mais pas facile quand on n'a qu'une île déserte, trois humains et l'océan à l'horizon. Un involontaire exercice de style. L'innocence du jeune gamin face à la noble guerrière forme un duo touchant et hilarant. Mais on sent que se prépare d'épique quête entre le chevalier et son futur écuyer. Cela part comme une production plus orientée jeunesse, mais à la fin du tome laisse entrevoir un recadrage plus action, probablement dicté par les sondages hebdomadaires de popularité qui rythment toutes les publications japonaises. On voit aussi le chemin parcouru depuis dans la vulgarisation du manga en France, puisque cette série est publiée dans le sens japonais, au contraire de Gun Last Order, qui est aussi publié chez le même éditeur, chez Glénat, qui est renversé pour être mis dans le sens européen, ce qui fait qu'on voit le type qui va balancer son poing gauche. Non, il est droit sur l'image, on n'arrive pas à suivre. aussi chez Glénat, mais là, ça a été débuté il y a 5 ans. Donc voilà. Yukito Kishiro Aqua Knight, le premier tome donc est sorti chez Glénat. En attendant, un petit peu de romance chimique qui reprend en fait. Extrait de la bande originale des Watchmen. Desolation Row, Michael Romance. Dus.
Oui, bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va.
Beau temps.
Ouais.
Magnifique.
Un peu frais quand même.
On a lâché les appels de la télé.
Ah oui, bah oui quand même.
Ah oui, t'es comme moi. Hein, ouf.
Ouais, non mais de temps en temps, il faut faire des pauses. Et on
t'as
peut
raison,
faire des pauses.
Et ben on va faire des pauses. Désolé, elle était facile.
Ouais. Surtout quand on a les manettes.
Oui.
Et quand on fait des pauses niveau télé, bah qu'est-ce qu'on fait? On peut prendre un livre, tout simplement.
Oh. Habile transition.
Et pas forcément un livre avec des images.
Là tu me déçois.
Ah bah écoute, non.
Je sais, tu en parles avec passion tout à l'heure en antenne pendant qu'on prend le café. Oui, parce qu'on fait des choses, hein, des fois qu'on te laisse les trucs tourner. Non, l'interview de Daniel Maguin, je l'ai déjà écouté, du sport la réécoutera.
Ouais.
C'est un bouquin, tu m'as dit, énorme.
Alors là, c'est assez énorme, hein, parce que c'est un premier bouquin d'un mec qui est jeune, hein, il a 29 ans, il va avoir 30 ans cette année, il est en 79 à Londres. Il s'appelle Tom Rob Smith. Son papa est anglais, sa maman est suédoise, diplômé de l'université de Cambridge, s'il vous plaît, en littérature anglaise en 2001. Il a travaillé un petit peu comme scénariste à la BBC, hein, après ses études, et d'ailleurs il est crédité sur deux épisodes de cette série anglaise qu'on n'a pas vu en France.
EastEnders ?
Non, c'est un petit peu le même genre, c'est dans le même genre, hein, c'est un soap, mais ça se passe chez les médecins. C'est une série qui s'appelle Doctors, tout simplement, qui a commencé en 2000 et qui continue toujours, hein, qui n'est pas terminée. Donc, et donc lui, il a été crédité pour deux épisodes de Doctors. Un en 2003, c'est l'épisode Today's the Day, et l'épisode Gap Year en 2004. Faut d'ailleurs signaler que cette série a quand même eu 4 nominations au BAFTA, c'est-à-dire l'équivalent britannique des Oscars, dont 2 pour le Best Soap, c'est-à-dire en concurrence justement avec ce que tu citais, Standards, le Coronation Street, et puis je me rappelle pas de l'autre, il y en a encore un autre, enfin bon, les institutions, on va dire, de la BBC. Tom Rob Smith, donc, qui par ailleurs a eu un parcours un petit peu bizarre, hein, parce qu'après ses études à Londres, il est parti étudier une année en Italie, hein, l'écriture scénaristique. Il est allé faire un petit tour au Cambodge, dépêché par la BBC pour aider à la création du premier soap de la télé cambodgienne, hein, c'est-à-dire chapeauter un petit peu les...
Vu qu'on regarde la télé cambodgienne des fois, je peux te dire, je la vois pas. Ouais,
non, mais bon, il a surtout aidé à mettre en forme, c'est-à-dire à diriger un petit peu les auteurs cambodgiens, ceux qui écrivaient au Cambodge. Hein, donc, donc il revient, et il avait donc une idée de scénario de film, hein, et en fait, en faisant des recherches, il tombe sur une histoire vraie, hein, une histoire de serial killer russe qui, dans les années 70, avait tué grosso modo une soixantaine d'enfants, hein, globalement. Mais on n'avait jamais réussi à mettre la main dessus parce que à l'époque, c'était encore l'Union soviétique, et que donc, dans un monde un petit peu idéalisé du communisme, le crime n'existait pas, et les structures policières étaient telles que il n'y avait pas d'Interpol, de trucs comme ça.
Ah bon, le KGB, le KGB travaillait pas.
Le KGB, c'est pour les espions, c'est pas la police.
Non, le KGB avait aussi des rôles de police sur les crimes violents.
Non, il s'agit du MGB.
Ah oui. Je vais lire le bouquin, je crois. Voilà. Je vais me remettre à niveau.
Et donc, il décide de développer donc une idée de scénario pour faire un film à propos de cette histoire-là. Ça ne se fait pas, mais il approfondit ses recherches et ça donne ce bouquin, Enfant 44. C'est son premier roman, hein, c'est le premier roman, hein, qui est sorti l'année dernière en Angleterre, fin de l'année dernière en Angleterre, et qui est sorti au début de l'année en France, paru chez Belfond. Alors l'histoire, c'est l'histoire d'un officier soviétique, Léo, qui est justement officier modèle du MGB, la police qui est chargée vraiment de dégager tout ce qui n'est pas communiste, c'est-à-dire que toi t'es soupçonné d'anticommunisme, toi tu es homosexuel, toi tu as dit du mal du père Joseph Staline, parce que ça se passe sous Staline en plus, hein, c'est le début des années 50, et donc il fait son boulot avec beaucoup de zèle et vraiment sans arrière-pensée, c'est-à-dire que quand il rentre à la maison, qu'il retrouve sa femme et tout, quoi, les gens qu'il a dégommé, les gens qu'il a torturé dans les caves de la Loubianka, il les oublie complètement. Pour eux, ce ne sont pas des personnes, hein, ce sont pratiquement des objets. Bref, un personnage qui a l'air d'être assez antipathique comme ça. Le roman débute bien sur la découverte du corps d'un petit enfant sur une voie ferrée, complètement nu, avec ce qui semble être de la terre dans sa bouche, et également le corps éviscéré, c'est-à-dire qu'il manque l'estomac. Déjà ça commence un petit peu trash et tout.
Ah ouais.
Mais lui qui voit dans l'optique communiste, c'est-à-dire dans l'optique de l'idéal communiste, se dit si on l'a trouvé retrouvée sur la voie ferrée, donc ok, c'est un accident de train, puis basta et tout. Alors que la famille dit non, c'est un assassinat et tout. Il va se trouver que à la suite de cette aventure et à la suite justement de la poursuite d'un présumé ennemi de la nation, eh bien et de l'interrogatoire de ce type-là, il va se trouver qu'il va commencer à avoir des doutes parce qu'en fait, il a tué un innocent et là, il va commencer à se poser la question de confiance. Suite à quoi, il va se retrouver mêlé à une chasse aux sorcières. Il va devoir suivre sa femme, faire suivre sa femme parce qu'elle est accusée d'anticommunisme. Alors au départ, il se dit bon, c'est pas normal, je la connais quand même, elle est tout le temps avec moi, enfin pratiquement tout le temps. Bon, ça me paraît un
peu
bizarre.
Elle lit Staline tous les soirs.
Elle enseigne aux enfants le respect des personnes âgées, le respect du communisme et du Saint-Père du peuple, à savoir Joe Staline. Donc il y a un petit problème quoi. Mais bon, il arrive donc à la conclusion que c'est sa femme anticommuniste, que non, ils se sont plantés, ça peut arriver et tout. Mais c'est le genre de truc qu'il ne faut pas faire. Et de ce fait, ils vont se retrouver exilés. Alors la sentence est relativement douce, parce que normalement, là, c'est direct le goulag. C'est-à-dire, tu te casses, et puis généralement, bon, t'as une durée de vie assez limitée. Hein, t'arrives à l'âge de 30 ans, t'es mort, t'es clamsé. Si tu crèves pas en chemin, bien sûr, bien entendu. Hein, parce que bon, le voyage en train dure 2-3 semaines, et puis bon, ok, quoi. Y a rien à manger, rien à boire, ou pratiquement rien. Donc, t'as toutes les chances de crever en chemin. Mais il se trouve, en fait, muté, mais non plus comme un des officiers modèles de la MGB, mais dans la milice locale d'un petit patelin qui est situé à 400 km à l'est de Moscou, où il va tomber à nouveau sur un meurtre, un cadavre qui, dans les caractéristiques, sont similaires au cadavre qu'il a vu à Moscou. Et donc, il commence à se poser de sérieuses questions, et il commence à se dire, bon, il y a de quoi faire une enquête et tout. Bien sûr, son supérieur direct ne veut pas parce que on est le paradis sur Terre. C'est
là.
Le paradis. Non, il n'y a pas de criminel, il n'y a pas de meurtrier en Union soviétique. Tout le monde sait ça, bien sûr. Et donc, il va faire son enquête, mais en loose dé, hein, en douce, sans prévenir personne. Et il va arriver quand même à convaincre son supérieur quand un deuxième corps est découvert pas loin du premier à une semaine d'intervalle. Donc là, bon, il commence à y avoir quelques petites questions. Mais le problème, c'est que un des officiers qui travaillait avec lui à la MGB et qui était vraiment assez jaloux de sa réussite, hein, parce que c'était son supérieur direct, et bien c'est qui d'ailleurs l'a fait grand, qui est pour beaucoup dans son exil forcé, et qui le suit d'ailleurs toujours de très très loin, hein, pour savoir ce qui va devenir. Hein. Va s'arranger pour que Léo puisse ne puisse pas suivre son enquête. Léo qui va faire des allers-retours sur Moscou, qui va également aller voir un petit peu partout comment ça se passe, s'il peut pas recouper d'autres crimes non résolus et d'autres situations similaires à propos de cadavres d'enfants. Il va être aidé par cela, par son chef qui s'est rangé à son avis, et ils vont découvrir que en fait il y a énormément de cadavres, et que le premier cadavre qu'il a trouvé à Moscou, et dont il ne voulait pas croire, parce que en plus c'était le fils d'un des officiers qui travaille avec lui, dans la chronologie est le numéro 44, le 44e enfant. Bien, ils en trouvent d'autres après.
Ah oui, donc il y en a un sacré stock.
Donc il y en a une tapée.
Ça veut dire s'ils ont déjà numéroté, ça veut dire qu'ils le savaient déjà. Cette info était cachée.
C'est eux qui établissent la chronologie, et qui donc Léo se rend compte que le premier enfant qu'il a découvert, et donc il a essayé de persuader la famille, non, ce n'est pas un assassinat, non, et c'est un accident, eh bien c'est l'enfant 44. Ils vont se faire poursuivre par le MGB qui est à leur trousse, parce que ils ont déclenché une enquête anticommuniste et tout le bordel. Ça va être la cavale, ils vont se faire choper, ils vont se faire envoyer dans le goulag, ils s'échappent du train, enfin c'est un espèce de de road movie, une enquête, c'est tout ce que tu veux, mais ça te prend vraiment aux tripes, c'est énorme, c'est vraiment un bouquin magnifique, c'est très très bien écrit en plus, hein, pour un premier bouquin, c'est vraiment vraiment très très bien écrit, et il y a une description vraiment très scrupuleuse, hein, de ce qu'était l'ambiance à cette époque là. Alors c'est chronologiquement, c'est pile poil à la moitié du bouquin, on apprend que Joseph Staline crève, donc, hein, donc c'est une
on
date
en 1953.
En 53, voilà, hein, ça se passe en 53. Donc les choses changent un petit peu au niveau du feeling. On ne sait pas trop. Il y a une période de latence comme ça, quoi, où personne n'ose plus prendre de décision. Personne ne prend jamais de décision. De toute façon, hein, on sait que bon, bah, dans le communisme et tout, quoi, l'individu n'est rien.
C'était une dictature.
C'est l'État qui est tout. Hein.
Et c'est une dictature qui a tenu 30 ans et pour lequel il a tout fait justement pour que personne ne commence à trop émerger à côté de lui.
Voilà, donc alors aidé par sa femme en plus, dont il apprend pas mal de choses en fait, hein, à propos de leur couple et tout. Enfin bon, c'est complété par une histoire d'amour à distance, on va dire, hein, parce qu'ils sont mari et femme, mais ils se sont jamais vraiment. Lui l'aimait, mais sans vraiment la connaître. Elle s'est marié avec lui parce qu'il était officier du MGB et parce que si elle ne se mariait pas avec lui, elle risquait de partir au goulag. Enfin, tu vois, le type d'ambiance qu'il peut y avoir. Très pesant, c'est très très lourd au niveau de l'ambiance, mais Tom Robb-Smith nous place vraiment très très bien dans cette ambiance là et nous décrit vraiment quelle était la situation des gens, hein, que ce soit le petit paysan paumé dans un petit village de l'Oural ou que ce soit un prof qui enseigne dans une école à Moscou. On est vraiment, on plonge dedans à fond les manettes, avec en plus une enquête policière qui est vraiment qui te prend et qui te lâche plus, quoi. C'est-à-dire que bon, une fois que tu prends le bouquin, t'as vraiment envie de savoir comment ça se passe et tout. Alors qu'en fait, eh bien, toutes les données sont tout au début du bouquin. Et ça, tu sais pas encore quand tu commences le bouquin.
Ah, c'est sympa de spoiler.
Énorme. C'est ça qui est assez énorme.
C'est
quand
sympa
même.
De spoiler, tiens.
Ouais, ouais, non, mais bon, c'est quand même assez tortueux comme chemin, quoi. Tu vois, c'est assez énorme quand même, hein, parce que bon, bah, Léo va apprendre beaucoup de choses en fait, hein, sur sa famille, sur ses parents, sur sa femme, au travers de cette enquête policière. Et c'est là que c'est vraiment très très fort. Enfant 44, donc c'est de Tom Robb-Smith chez Belfond, à signaler. Que son deuxième roman sortira le 6 avril, mais en Angleterre, hein, ça s'appelle le Secret Speech, et si vous voulez le lire en version originale, ça sortira chez Simon & Schuster, c'est parmi les plus grands éditeurs en Angleterre de toute façon, quoi.
JB avait une remarque à faire. Salut JB.
Hello, hello. Oui, j'avais l'impression au départ que ça ressemblait beaucoup au scénario de Memories of Murder. On trouve un gosse dans un pays plutôt communiste et
C'est Corée du Nord, hein, qui est communiste.
C'est Corée. Oui, je me souviens plus du tout du film. Effectivement, je crois qu'il avait. Ça avait été fait. Bref, je m'en souviens plus. J'allais vous dire. Ça ressemblait. Il y avait beaucoup de relents communistes dans le film. Et effectivement, on cherche. Bon, ça a très noir pendant le tout début du film. Et puis après, ça part un peu en couille à partir de la moitié du film. Mais là, ça ressemble pas du tout.
Ah au fur et à mesure du livre, ça part pas en couille. Ça monte crescendo, tu vois. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Au début, il y a beaucoup de descriptions sur les situations et tout. Donc, tu te dis, bon. Un peu documentaire, c'est limite peut-être un peu chiant, quoi, un peu longuet, quoi. Mais une fois que l'enquête a bien démarré, qu'on sait où les personnages vont aller, où ont l'air de savoir où aller, là, on est vraiment bien dedans. À signaler aussi, et ça c'est à destination de JB, Ridley Scott va réaliser le film.
Ah, je prends.
De Enfant 44.
Voilà. Non, celui-là, donc, il est emprunté dans une bibliothèque de bouquins.
Ça va être scénarisé par quelqu'un d'autre. Hein. C'est-à-dire, c'est pas lui qui est pourtant scénariste de métier qui va scénariser pour Ridley Scott. Mais Ridley Scott, donc, a priori, devrait réaliser ce film.
Il a acheté les droits. Ouais. Et c'est en préparation de tournage.
Je te rappelle qu'il a un gun aussi à adapter. Hein,
en préparation d'écriture. Hein, donc, mais je pense que ça peut valoir le coup. Mais sans Tom Cruise dedans, hein, ça c'est clair.
Ouais. Il est 13h sur le supplément week-end sur Radio FMR en direct. C'est l'émission numéro 192. S'il vous plaît.
Non.
C'est JB qui reprend au pied levé la partie cinéma.
Oh.
Oh, merci.
Si tu m'annonces pas ce que tu vas chroniquer, moi j'ai pas de fond sonore.
Je crois que je vais te le faire plus souvent, ça.
Et le jingle maison.
Yes.
Cinéma, cinéma.
Bon, allez.
Donc, comme vous avez pu l'entendre, Thomas n'est pas là aujourd'hui. Oui, j'ai prévu à sa place de vous faire une chronique ciné. Donc, vous les petits, j'obtempère. Donc, ouvrons le menu et là, d'amener les enfants, la tête d'affiche, c'est...
Bon, Watchmen.
Ouais, mais c'était il y a deux semaines.
Oui, c'était il y a deux semaines, c'est vrai, mais... C'est... Pardon. Ah oui, oh voilà. Putain.
Et malheureusement, c'est
mes souris, comme il dit dans la bande-annonce.
Mes souris, oui, quand tu passes devant les flashs. Vous avez compris, c'était Coco.
Donc, Gad Elmaleh, hein, voilà.
Gad Elmaleh, Pascal Abouilo, Manu Payet.
Et beaucoup de cabotinage.
Évidemment. Bon.
Vous voulez que je raconte... le fond sonore tombe bien.
Ah, super, merci. Donc, effectivement, Coco, 40 ans, self-made man, est l'exemple parfait de la réussite sociale. Parti de rien, immigré, il a réalisé en 15 ans une sex story avec une invention, l'eau frétillante. L'eau qui entre effectivement l'eau plate et l'eau avec gaz. Allez savoir, c'est super. Mais pour Coco, la plus grande consécration est à venir. C'est la bar mitzvah de son fils Samuel qui aura lieu dans 6 mois. Donc il a mis tout
annuel
le monde.
Annuel
À
tous les ans, il... C'est une religion à abonnement, ça?
Non, tout simplement, c'est que je me suis mal relu, effectivement. Merci. Genre, ça va être le viandage pendant toute la chanson.
Ça arrive. Et tu dis ça un jour de Shabbat, en plus.
Non, mais ça arrive. JB, comme moi, a écrit la chronique une heure avant l'antenne, voilà.
Tout à fait. Donc, il invite tout le monde à l'événement national de l'année. C'est ça, voilà, c'est parce que c'était l'événement national de l'année, merci. Et premier du j'avais vu, de l'époustouflant, du rail de coq. Donc trop obsédé par la perspective d'en mettre plein la vue au monde entier pour sa fête, Coco agit avec démesure et frôle la folie, sans voir que sa femme, son fils, sa mère et tous ses proches se désolidarisent peu à peu de l'événement. Bref, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est avec Gad Elmaleh, c'est de Gad Elmaleh, ça ne vole pas très haut. Je reprends ma chronique, hop, voilà. Bon.
Non mais. Vas-y. Honnêtement, JB, rassure-moi, on avait dit que c'était inutile parce qu'on a beaucoup de bouquins, beaucoup de films qui sortent, beaucoup de choses à voir à la télé. C'est inutile de casser pour casser. Dis-moi au moins qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans.
Ouais, des seconds rôles, des gags.
J'aime beaucoup Hors de Prix. Voilà, c'est tout. En fait, c'est que je suis allé, j'ai voulu prendre la chronique ciné. Ok, très bien. Je regarde qu'est-ce qui sort. Coco. Bon, allez, pourquoi pas. Je commence à me documenter. Mais cette semaine, j'ai rien fait. De culturel, d'intéressant ou autre chose. La seule chose intéressante que j'ai faite, on est allé voir Watchmen. Effectivement. Mais vous l'avez déjà chroniqué il y a deux semaines. Donc.
Et du sport aussi, vous voulez en rajouter une couche, je vais vous dire à Qatar.
J'avais réussi à faire toute une page. De vide interstellaire, de blabla, de bonne langue de bois. Bon, je disais qu'à la fin j'ai courté, que effectivement je suis allé voir Watchmen, que effectivement si j'avais pu rentrer dans un espace continuum pour aller dans le passé, ben, effectivement je me serais bien joint à vos réflexes jubilatoires au sujet du film, parce que c'était 2h40 de plaisir. L'adaptation est fidèle, mais elle est suffisamment réactualisée pour qu'on la mette en boîte au cinéma. Mmh. Et que j'avouais que franchement, enfin,
comme tous
le film précédent.
Comme nous tous, t'as été surpris parce que depuis 20 ans, tout le monde se disait c'est infaisable. Et dernières adaptations imprévues pour Vendetta, on s'est dit ça va être une cata. Et finalement, surprise.
Ouais.
C'est bon. Alors, juste une chose quand même pour te signaler. On va faire l'agenda en quatrième vitesse en même
d'accord.
temps. Juste pour signaler que cet après-midi, il y a Stéphanie Mercier, Tous les jours la grande chose, qui est une adaptation de son blog, qui est en dédicace à la librairie Album. Et à Gilbert Joseph, Thierry Plus pour Dog et moi, qui est un excellent polar en couleur directe. C'est une merveille. On en parlera, on l'aura en interview la semaine prochaine, hein, puisque on va le voir tout à l'heure à la librairie Gilbert Joseph. Mais surtout, il y a Evangelion 1.0, You Are Not Alone, qui était censé sortir depuis début mars, mais il n'y a que deux copies en France. L'unique diffusion, ça aura lieu vendredi 3 avril au Méga CGR à Blagnac. Et on en parlera la semaine suivante, le samedi 4, qui sera le spécial manga annuel du supplément week-end. Et malheureusement, en attendant, il y a une...
Le film dont tu m'as envoyé, dont tu nous as envoyé un mail pour nous dire que Télérama l'avait dit du bien, c'est ça?
Oui.
Oui.
Voilà, donc c'est une blague hein, entre nous. Mais bon, voilà. Mais tout ça pour dire, on a eu une avalanche de très 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 bons films en janvier. Et là, depuis trois semaines, blanc.
Bah, ça se calme, et puis c'est pas prévu de rebondir quand on a vu les bandes annonces cette semaine entre je reprends ma chronique, hop là, hop, entre du gros nanar avec un dragon et cette boule et des kamehameha.
Aïe aïe aïe, non, ouais. C'est ce que je pense.
Ouais, ben ou effectivement on redevient ado, ou alors c'est vraiment pitoyable, mais c'est Dragon Ball Evolution.
Cool.
Ouais. Et encore, c'était pas le seul film là. Il y a franchement.
Eh ben, dis donc, Darwin, il fait du dégât. Hein.
Oula, ouais. Des fois, il y a vraiment à se poser des questions si nos chers producteurs ne pensent qu'à leur porte-monnaie. On a eu Paul Walker et Vin Diesel ensemble. Ça vous dit quelque chose?
Ben oui, oui. Tout Fast Furious.
Rapide et furieux, génération 4, évidemment, va bientôt sortir.
C'est déjà le 4 ?
C'est déjà le 4.
Ah zut, j'en ai vu que 2.
Et franchement, je me souviens, c'est en Amérique du Sud cette fois-ci.
Un et demi, quoi.
Même pas.
C'est pas en Amérique du Sud ?
C'est même pas en Amérique du Sud. C'est vrai que je crois que le précédent, ça se passait à Tokyo. Tokyo
oui, c'est ça.
C'est le deuxième, quoi.
C'est le troisième.
Le troisième.
Et c'est
sûr. Ah oui, Too Fast, Too Furious, oui, oui. Tout à fait, tout à fait.
À un moment ou à un autre, ils vont faire un reboot de cette franchise, mais bon, les gars, arrêtez de faire des reboots partout, parce qu'à un moment, on va s'en lasser aussi. Hein. D'ailleurs, on commence à voir apparaître des films rebootés, où on dit stop, là. Je crois que le vendredi 13, les chroniques du reboot sont pas bonnes du tout.
On verra ça. En attendant, ouais. Donc, pour ton choix pour cette semaine, pas grand-chose, à part ce qui est déjà sorti.
Watchmen voilà, pour ceux qui l'ont déjà vu, aussi.
Merci JB, en tout cas, de t'être sacrifié. Je crois que Thomas est parti en week-end exprès ouais. Pour éviter ça.
Merci.
Du sport, lui, il va renvoyer derrière.
Oui, mais il veut d'abord
changer le morceau, là, des Watchmen, là.
Ouais. Voilà. La BO est fabuleuse, d'ailleurs.
Eh ben ouais, bah on va en écouter un extrait, alors un morceau, quoi.
Ah oui.
Bah,
tu l'annonces, ce morceau
alors. Ah ouais, ouais, bah là, c'est...
C'est lequel que t'as pris?
Bah c'est lequel? C'est celui où tu vois tous les Minutemen qui se font dégommer au fur et à mesure, quoi.
Bob Dylan.
The times are changing. And admit that the waters around you have grown. And accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Some senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. The line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading,
And the first one now will later be last, for the times they are a-changing.
The times they are changing, Bob Dylan, qui est donc dans le générique d'introduction du film.
Ouais, ouais. D'ailleurs, qui est le morceau qui est sur l'album qui s'appelle comme ça de Bob Dylan et qui, à l'origine, ne s'appelait pas comme ça. L'album s'appelait Mr. Bob Dylan. Et donc, au fur et à mesure des rééditions, bah, ils ont changé, ils ont appelé l'album The Times They Are Changing parce que c'est le morceau phare de l'album. Enfin, quoique, hein, ça c'est encore une question de goût.
On y va ?
Alors, pour revenir...
On t'interrompt, Xavier, parce qu'on était en train de parler off.
À notre discussion sur les morceaux de Dylan dans Watchmen, il y a le morceau de Chemical Romance, Desolation Row, qui est une reprise et tout. Et,
d'accord. Et effectivement, moi, je disais qu'il y avait aussi All Along the Watchtower,
la troisième reprise de Jim Hendrix, qui n'est pas vraiment une reprise, parce que les accords, et ça, c'est un truc un peu technique, la grande force de Jim Hendrix dans le morceau All Along the Watchtower, c'est de garder les paroles, mais de rajouter un accord à la musique originale de Dylan, et ce qui fait que le morceau redevient original.
D'accord.
C'est pour ça que le morceau est vachement intéressant.
Donc tout ça,
très, très bête.
YouTube dans Rattenham, reprennent-ils All Along the Watchtower version Hendrix ou version Dylan?
Non, mais on n'est pas une émission musicale, et d'une, et de deux, l'émission musicale est à 14h, c'est avec du sport. Voilà.
Laisse-nous parler.
Non.
Allez.
Super générique.
Smoker's Delight, c'est le nom de l'album de Nightmare on Wax. Dus.
Ouais, je bois un coup d'abord.
Hein. Sans modération d'ailleurs. Donc.
De l'eau frétillante, monsieur.
Frétillante.
Merci Coco.
Qu'est-ce que t'as réussi à trouver dans le guide des programmes?
Eh ben, trois polars en fait,
hein,
dont un complètement original, inédit, qui est en fait une série spin-off d'une série dont je vous ai longuement parlé.
Je tiens à signaler, fouette-moi, mais j'ai toujours pas vu la série sur Arte hier.
Ouais, mais bon, je vais en parler après, quoi. Mais il y a une raison, hein, peut-être. Alors, la seule inédite, de toute façon, non, il y en a deux inédites cette semaine. Hein, ce sont deux séries de polars, une anglaise et une française. La première, c'est Inspecteur Lewis. Ah, mais ça nous rappelle les souvenirs. Inspecteur Lewis. Lewis, venez ici. Qui c'est qui disait ça?
Parker Lewis?
Non, c'était Morse, bien entendu.
Mais oui, Inspecteur Morse.
Avec.
C'était son second. C'était son second à la police de.
Le second d'Oxford. Voilà, la police d'Oxford, interprétée par Kevin Whiteley.
Il faut savoir que ça a été la plus grande audience de ITV dans les années 90. Morse. C'est franchement un truc énorme. Hein.
C'est bien, ah ouais, non, mais bon, vraiment très très bien, ça le mérite. Hein. C'est
tiré. Anglais.
Oui, c'est anglais.
Je vous pose des questions, je suis
Oxford, c'est en Angleterre, hein, en principe.
Ouais, mais bon, on
c'est
pas.
À environ 80.
Sauf
100...
les cahiers Oxford, mais ça, c'est autre chose.
Il y a des fois des villes aux États-Unis, t'as bien Paris au Texas, t'as bien toutes les villes
que JB noie pas le poisson.
Non,
je cherche, je sais pas.
Mais quand il noie le poisson comme ça, c'est que t'es coupable.
Non, mais
attention,
faut pas me lancer là-dessus parce que des Paris, il doit y en avoir au moins une douzaine, si pas plus, aux États-Unis. Il y a toutes les villes françaises pratiquement que tu peux retrouver aux États-Unis.
Ah ouais, il y a Toulouse aux États-Unis.
Ouais.
Ah ouais, je veux savoir.
Ah ouais. Bon, Inspecteur Lewis. Donc, eh bien, c'est le spin-off. Hein. On sait que bon, je vous avais dit, l'inspecteur Morse meurt. Hein. Ça, c'est dans les bouquins de Colin Dexter qui est l'écrivain qui a inventé donc l'inspecteur Morse, dont est issue la série. Et comme Morse crève, hein, le bouquin s'appelle La dernière enquête de l'inspecteur Morse, d'ailleurs il meurt d'une crise cardiaque et tout, mais il avait des problèmes avec son foie parce qu'il picolait trop, hein, l'inspecteur Morse, bon. Et puis qu'il voulait pas se soigner en plus, hein, donc bon bah ok, hein, tant pis. R.E.P. N.D. Avour Morse. Donc Inspecteur Lewis prend la suite. C'est une série qui est assez récente, hein, car elle est sortie en décembre 2006 sur la télé anglaise. Et nous, on va pouvoir voir les premiers épisodes qui datent donc de 2006-2007, avec Kevin Whiteley dans le rôle titre, Inspecteur Lewis. Et l'inspecteur Lewis, qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là? Alors on se rappelle que lors du dernier épisode justement de l'inspecteur Morse, l'inspecteur Lewis n'est pas là. Pourquoi? Parce que sa femme, qui était restée à Londres, a eu un accident de bagnole et crève. Et donc l'inspecteur Lewis, bah, il va plutôt s'occuper de régler les petits détails et tout concernant la mort de sa femme. Et donc laisse l'inspecteur Morse tout seul. Et l'inspecteur Morse, bon bah ok, bah, vers la fin de l'enquête du dernier épisode, eh bien meurt d'une crise cardiaque chez lui comme ça. Il est allé chercher je sais pas quoi. Enfin bon bref, ça n'a pas beaucoup d'importance. À la suite de cela, l'inspecteur Lewis va être détaché aux îles Vierges. C'est vrai, aux îles Vierges, pour peaufiner sa formation pour pouvoir passer inspecteur chef, c'est-à-dire le même grade que l'inspecteur Morse. Et donc il va passer les 2-3 ans où il n'y a rien eu quoi, aux îles Vierges, puis revient donc à Oxford où sont basées pratiquement toutes les aventures de l'inspecteur Morse et du détective Lewis, pour prendre la place donc de l'inspecteur Morse, inspecteur chef Lewis, qui eh ben, n'a plus comme patron celui qu'on voyait qui était le patron de Morse, mais là maintenant c'est une femme. Eh oui, parité oblige bien entendu. Alors Kevin Whitley a également un alter ego à ses côtés, interprété par Lawrence Fox. Il s'agit du sergent Hathaway. Alors la grosse nouveauté, c'est toujours diffusé par France 3, hein, ce sera demain soir à partir de 20h35. C'est des téléfilms, hein, c'est-à-dire bon, bah, 1h30 globalement. Il va y en avoir deux demain soir. Le premier, c'est Retour à Oxford, réalisé par Bill Anderson. Le deuxième, ce sera Expiation, aux alentours de 22h10-22h15, réalisé par Dan Reed, les deux la même année en 2007. Et l'inspecteur Lewis, d'avoir Kevin Whitley, on voit qu'il a pris de la bouteille. Et physiquement, d'ailleurs, bon, bah, ok, il a pris un. Une bonne claque dans la gueule, hein, il faut le dire. Auparavant, il apparaissait vraiment entre, on va dire, proche de la trentaine et tout. Là, bon, bah ok, il a passé la quarantaine à l'aise, tranquille, hein, de toute façon, quoi. Ce qui est très intéressant, c'est que France 3 vous propose de regarder le premier épisode Retour à Oxford sur le net. Dès maintenant, vous allumez votre télé, vous allez sur le site de France3.fr et vous pouvez voir en intégralité le premier épisode d'Inspecteur Lewis, Retour à Oxford.
Attention, ça, il faut y aller avec Internet Explorer et le dernier Windows Media, sans faire erreur.
Ouais, je sais pas, enfin bon...
C'est à vérifier, ça.
C'est, quand même, c'est la politique actuellement de France Télé.
Ouais, peut-être.
C'est DRM, hein, ils sont obligés, sinon ce serait visible dans le reste du monde et ils n'ont pas le droit. Donc voilà.
Ok. Ok, alors dans cet épisode de Retour à Oxford, le premier, on notera la présence de Claire Oldman, de Rebecca Front, de Michael Maloney et de Jack Ellis. Jack Ellis, qui est Jack Ellis? Ah là 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 là. On l'a vu dans plusieurs épisodes de Prime Suspect, où c'est l'un des adjoints de Helen Mirren, hein, suspect numéro 1, je rappelle, l'excellente série avec Helen Mirren dans le rôle de l'inspecteur chef Tennyson. Et Jack Ellis, c'est également... Monsieur Fenner dans cette magnifique série Bad Girls, basée dans les prisons en Angleterre, mais prison de femmes. Ah ouais ouais, la série était excellente, magnifique, et lui c'était le rôle, il tenait le rôle du chef des matons, vraiment l'enfoiré de base, enfin le mec que tu haïs avec bonheur, quoi, tellement il est méchant, il est mauvais, c'est un enfoiré, tout ce que tu veux, quoi. Mais faut reconnaître que cet acteur est quand même vachement bon dans ce rôle, hein. C'est vraiment un bonheur de le voir. On sait qu'on est garanti d'avoir une bonne prestation de toute façon. Et il y a également dans Retour à Oxford la présence de Gemma Redgrave. Alors je vous avais dit qu'un jour peut-être je vous ferai une espèce d'arbre généalogique de la famille Redgrave Richardson. Alors je vais pas vous faire l'entier parce que c'est sinon je vais me perdre moi-même, quoi, même avec un schéma à peu près correct. Alors Gemma Redgrave, c'est la fille de Corinne Redgrave. Corinne, c'est un prénom masculin, hein, en Angleterre. Qui est Corinne Redgrave est le frère de Vanessa Redgrave et de Lynn Redgrave. Vanessa est la maman de Natasha Richardson, qui est morte cette semaine, hein, accident de ski aux États-Unis, et puis bon, voilà, et qui était la femme de Liam Neeson. Voilà. Et Vanessa, c'est également la maman de Joely Richardson, qu'on peut voir dans Nip Tuck. Voilà, vous voyez à peu près quoi. Maintenant vous commencez à suivre.
D'accord,
un petit
c'est
peu,
une belle dynastie d'acteurs quoi.
Ah, c'est, et je parle pas de ceux qui sont avant, hein, parce que bon, bah, Ian Richardson, toute la bande et tout, alors là, laisse tomber, et Michael Redgrave, toute la bande, laisse tomber, il y en a encore toute une tapée. Donc on se concentre sur la famille assez proche de Gemma. Et Gemma qui est surtout connue pour ses rôles, beaucoup de rôles à la télé, hein, elle est apparue dans pas mal de séries anglaises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Elle a fait une très petite carrière au cinéma, je vais même pas repérer les films dans lesquels elle a tourné parce que bon, c'est pas des, c'est surtout des séries B, des fois intéressantes, mais sans plus. Et c'est également une nana qui souvent ben a fait partie de la rubrique Potin, tu vois, People Magazine et trucs comme ça et tout, parce que bon, elle avait une attitude un peu punk, on va dire, quoi, genre, quoi, tu vois, genre Britney Spears, mais dans les pires moments, quoi, tu vois, genre, à dégager sans
j'imagine
problème.
La une du Daily Mirror, elle rote à table.
Ouais, non, c'est pire que ça, franchement, c'est bien pire que ça. Allez, bon, j'ai ma redette, donc, dans le premier épisode de l'Inspecteur Lewis, c'est demain soir sur France 3 à partir de 20h35.
Juste reprend son souffle.
Et dans la case traditionnelle de France 2 le vendredi soir, qu'est-ce qu'on a?
Bah en ce moment, c'est les séries hospitalières. Alors...
Ouais, ah oui. Mais c'est polar, hein, généralement. Hein. Depuis PJ, il y a maintenant 12 ans, puis d'autres séries et tout.
Ils avaient dit, bon, allez, on supprime la pub, c'est pour mettre une heure plus tôt le magazine culturel. Et maintenant, ils disent, oh, on va mettre un troisième épisode de série parce que le truc là, culturel, ça attire 200 000 personnes.
Ouais, non, le culturel, bon. On le met sur France 3, tu vois.
Ouais, c'est d'un malin, tiens. Ouais.
Alors, une nouvelle série sur France 2, donc c'est vendredi prochain à 20h35, ça s'appelle. Et ça, bah, c'est bien parce que c'est un cours de métier qu'on n'avait pas souvent vu à la télé. Action spéciale douane. Ouais. Alors vous rigolez, mais
à l'heure de l'espace Schengen, je pense que quand même ça doit être.
Ah ben non, mais ils sont toujours actifs, hein, on les voit.
Oui,
encore,
ça je
hein,
sais.
Il y a pas de problème.
Mais hein. Maintenant ils galopent plus après les trafiquants de margarine qui sont allés faire les courses
en Andorre,
voilà.
Ça alors,
si, détrompe-toi. Mais...
de margarine.
série, une série dont 6 épisodes ont été tournés pour la première saison avec des rôles, avec des acteurs, des actrices qui sont relativement bons, quoi. Marc Duret, qu'on a déjà vu dans La Haine, qu'on a vu dans Doberman, entre autres. Boris ouais. Terral, Anne Loiret, Claire Perrault, Frédéric Van Der Drich. C'est pas mal, quoi. Franchement, c'est
ça
pas mal.
Tient la route, oui.
On demande à voir, hein, sans problème. 2 épisodes donc seront diffusé par France 2 vendredi prochain à partir de 20h35. Le premier s'appelle Assassin sans frontières, le deuxième Mort sans ordonnance. Et après Action spéciale douane, si vous avez loupé cette série qui est vraiment excellente, claque dans la gueule sans problème, surtout la première saison, Sur le fil est rediffusé par France 2 après Action spéciale douane. Donc allez-y Franco, là il n'y a pas de problème. Non, ça n'a rien à voir. Mais là c'est vraiment.
C'est sur écoute, The Wire.
Ouais, sur écoute.
Sur le fil,
voilà, je m'en fais. Ça n'a rien à voir, hein, rien à voir. Mais là, c'est vraiment, c'est vraiment la claque au niveau série policière et tout. On avait déjà eu une grosse claque avec Police District sur M6 il y a quelques années. Là, c'est pareil, grosse claque avec Sur le fil, quoi, sur France 2. C'est une rediff, mais si vous ne l'avez pas vu, allez-y, Franco, il n'y a pas de problème. Ensuite, comme tu n'as pas encore pu voir. Criminal Dauerdienst sur Arte le vendredi. Berlin Brigade Criminelle. Eh bien, sache que si les 2 premiers épisodes ont été diffusés en prime time, on sait que généralement la case horaire du vendredi sur Arte, c'est un téléfilm. Donc, on a eu le téléfilm hier. Alors, j'ai regardé la fin de ce téléfilm avec Isabelle Adjani, le retour d'Isabelle Adjani à la télé. C'était dans tous les magazines et tout. Aïe. Oh là là.
Ah, ça a été terrible.
Ah, c'est dommage.
Ah, d'accord.
Ah là là. Et juste après,
bon,
donc.
Ça c'est dit.
Et juste après, donc, un épisode de Criminal Dauerdienst, Berlin, Brigade Criminelle. C'était le numéro 3. Et là, bon, bah, ok, ça. commence à péter les boulons de tous les côtés. On se rappelle que le commissaire principal, interprété par Goethe Schubert, quoi, pour essayer de retrouver celui qui a fait mourir sa fille dans un accident de bagnole alors qu'ils étaient sous extas, va pointer le canon de son flingue sur la tête du mec et tout, quoi, pour dire ouais, pourquoi t'as fait ça, qui est le dealer qui t'a vendu cette merde là, et tout. Et à la suite de ça, ben, dans l'épisode qu'on a vu hier soir, eh bien, la police des polices fait son apparition dans le commissariat parce qu'une plainte a été déposée par les jeunes qui étaient présents, quoi.
Alors juste une question du sport. Oui. C'est quoi alors dans ce cas-là la version allemande de bœuf carotte?
Ben non mais comme ça en français tu vois, et puis que sur
Arte.
Je pensais
que tu l'aurais su.
Ben non parce que bon j'essaie de voir en VO mais là sur Arte il y a la VO mais pas sous-titrée, quoi, tu vois. Alors mon allemand n'est pas suffisamment bon.
Comment tu peux voir Arte en VO pur?
Non, t'as double langue, ou sinon sur enfin toi aussi tu es chez un FAI, t'es le même que le mien. Ouais. Soit tu as le choix français et puis il y a marqué anglais alors qu'en fait c'est la version allemande. Ouais. C'est très amusant d'avoir les Avengers en allemand. Mais et après tu as un autre canal qui est Arte allemand.
D'accord.
Okay. Voilà.
Ah oui.
Donc
oui.
Tu as le double langue. Voilà.
Ok, parfait.
Oui toujours. Ouais. Alors donc les bœufs carottes qui débarquent et tout. Alors il y a toujours les épisodes sont toujours coupés en deux, c'est-à-dire il y a une histoire qui est linéaire qui démarre depuis le début de la série, hein, qui où ils vont essayer de faire tomber un trafiquant de drogue qui inonde pratiquement tout le quartier dans lequel ils opèrent, hein, qui est un trafiquant quand même à grosse échelle. Ce trafiquant qui est également convoité par la brigade centrale, c'est-à-dire les flics qui s'estiment supérieurs au petit commissariat de quartier dans lequel évoluent nos héros.
Cette affaire est trop importante pour toi.
C'est un petit peu la guerre des polices et tout. Ils essaient de se subtiliser les témoins, enfin bon, des histoires d'enfoirés, ouais, de première. Et c'est le gros bordel également dans le commissariat, parce que dans l'episode qu'on a vu hier soir et tout, panne informatique, donc les boules et tout.
Aïe. Bon,
on peut plus bosser et tout. Alors ça commence par un mec qui est dans la rue et tout, qui s'amuse à fracasser les bagnoles et tout, tu sais, à démonter les pare-brises et tout, à taper dedans comme ça, quoi. Et puis bon, le mec est un petit peu allumé à la masse, on va dire. Et puis bon, bah ça va mal se terminer d'ailleurs dans le commissariat, parce qu'il y a le plaignant et celui qui a commis les dégâts, quoi, qui vont se trouver dans des cellules juste de l'un à côté de l'autre et tout. Mais comme
le plaignant est dans une cellule.
Ouais, parce que bon, ouais, attendez, on a un problème d'informatique, on n'a pas le temps, attendez là, et puis on viendra vous voir et tout. Et puis se retrouvent les deux dans la même cellule. Ouais, pourquoi tu m'as fait ça? J'en ai pour 20 000 euros de dégâts. Ouais. Puis au bout d'un moment, bon, le mec il va lui exploser la tête et tout, quoi.
D'accord, ok.
Un peu heavy, alors que bon, bah comme il y a pas de système informatique, les caméras de surveillance qui sont installées pour surveiller ce qui se passe dans les cellules, bah elles fonctionnent pas, quoi, tu vois. Donc ils ont pas pu repérer le truc. Il y a une autre enquête qui est l'enquête, on va dire, de l'épisode en lui-même, hein, qui est bon. Une enquête qui sont assez similaires par les sujets trouvés aux enquêtes qu'on peut remarquer par exemple dans New York Police Judiciaire ou dans New York District. C'est-à-dire c'est des espèces de faits divers comme ça qui ont l'air sordides, mais des trucs de tous les jours, quoi, si tu veux, quoi. Une nana qui se jette du cinquième étage, bon bah c'est un suicide au départ, et en fait il s'avère que non, c'est peut-être pas un suicide et tout. Ah mais attends, il y a une histoire d'assurance vie derrière et tout, enfin non, le père qui s'accuse, non c'est moi qui l'ai tué, en fait non, s'il s'accuse c'est pour pouvoir toucher l'assurance vie, pour que sa fille puisse toucher, enfin tu vois, c'est une histoire assez rigolote, quoi. Quand même, quoi. Enfin pas rigolote, mais bon, la vie de tous les jours quand même, quoi. Il y a toujours cette espèce de tournage, cette espèce d'image un peu floue et tout, quoi. À un moment, Christine me disait, ouais, mais pourquoi c'est, il y a un grain comme ça sur la télé et tout. Sur quel canal tu t'es mis là? C'est pas bon là. Non, c'est l'image. Hein, c'est comme ça, c'est filmé comme ça. Les décors bien crades, le commissariat, c'est trash avec des tags à l'intérieur. Enfin bon, c'est. Vraiment, c'est une bonne ambiance, bien rendue et tout.
Enfin,
quoi.
C'est assez hard-boiled.
Tout le monde, ouais, c'est assez hard-boiled. Hein. Puis l'enterrement de la fille du commissaire principal à la fin vaut son pesant de cacahuètes, ça, je peux vous le garantir.
D'accord.
C'est vraiment excellent, quoi. Il y a pas de problème, magnifiquement interprété. Hein. Donc Goethe Schubert, Manfred Zapatka, Barnaby Medchourat, quoi, qui joue le rôle du jeune turc qui se marie avec sa, avec une femme, mariage forcé, pas forcé, mais bon, les, ils se connaissent pas.
Arrangé.
Et puis, la nana vient de Turquie et tout, claque et tout. Et puis, alors c'est assez marrant parce que dans l'épisode d'hier soir et tout, elle, il la ramène dans une école pour qu'elle apprenne à parler l'allemand, parce qu'entre eux, ils parlent turc, bien sûr. Et elle et tout, quoi, elle attend que lui se barre, elle voit la bagnole qui se barre et tout, et hop, elle ressort, et direct, elle enlève le voile et tout, elle laisse tomber ses cheveux et tout, allez, je vais me balader en ville tranquille et tout. Et puis bon, c'est la plus mignonne du lot en plus, tu vois, quoi. Vraiment, c'est un super canon, quoi, donc ce qui ne gâche rien, quoi. Donc Berlin Brigade Criminelle, vendredi prochain, alors hier c'était à 22h10, vendredi prochain, ce sera à 22h40, un seul épisode, le quatrième de la première saison, hein, qui en compte 11. Et l'épisode s'appelle Am Ende des Weges, qui veut dire...
Je sais pas, j'ai pas eu le temps de lire le sous-titre.
À la fin du chemin.
Ah, d'accord.
Bah ouais, bien sûr. Okay. Voilà, donc, mais fortement conseillé, là, vraiment.
Il n'avait pas dit Viva Las Vegas, là ?
Non, Am Ende des Weges.
Las Vegas.
Ok, d'accord. Ne vous inquiétez pas, il est 13h30 pile, là.
Bon, ok. Et bah, vous avez de la chance parce que... je me suis dit on va faire du film de genre, mais j'ai choisi des genres qui sont pas top, quoi, tu vois, genre bon bah ok, j'aurais pris science-fiction, j'aurais pris polar et tout, j'aurais eu 4 feuillets. Mais là bon bah ok, deux genres et bah un feuillet
c'est pas nous, feuillet, c'est vite fait comme ça. C'est pas nous qui avons du bol, hein, c'est pour ceux qui justement sont passionnés de sport et qui veulent écouter ça.
Ouais, mais s'ils sont passionnés de sport, ils écoutent pas mon émission, ouais, ont... à mon avis.
Mais si, quand même, hein. Quand même. Okay. Avec une spéciale. Alors, la semaine prochaine, ne loupez pas la semaine prochaine.
Je voulais vous faire tout un topo sur les comédies musicales et tout. Une seule comédie musicale diffusée cette semaine. Il s'agit de l'excellent Hairspray d'Adam Shankman avec Nicole Blonsky, Travolta, Zac Efron et Queen
Latifah.
Ça
passe sur Canal Plus.
Et ça passe sur Canal Plus Cinéma ce soir à 20h45. Après, ce sera rediffusé, quoi.
Est-ce qu'il y a un rapport avec le John Waters?
Alors voilà. Alors je vais faire une petite précision car dans une émission de cinéma sur Radio Éphémère défunte, hein, c'était les fameux hallucinés.
Voilà, le mardi, au même créneau horaire que nous.
Il s'était complètement planté.
C'était pas la première fois.
En disant que Hairspray, ce film était donc issu d'une comédie musicale dont s'était inspiré John Waters. C'est l'inverse, c'est le film Hairspray de John Waters dans les années 80, me semble-t-il, fin des années 80, qui a inspiré la comédie musicale, qui a inspiré le film d'Adam Shankman, tiré de la comédie musicale inspirée du film de John Waters. Voilà, vous m'avez
si
bien compris.
Si vous n'avez pas compris, oui, tu peux revenir 20 secondes en arrière.
Voilà. Ok, maintenant les choses sont dites. Alors...
C'est bien le podcast pour ça.
Non, mais bon, il faut rétablir un petit peu la vraie vérité.
Voilà.
La vérité vraie. Bien que l'omission ne soit pas si grave que ça. Hein.
Non, alors, on a juste supprimé l'émission. Voilà.
Ouais, non, mais c'est parce qu'il pouvait plus la faire, tout simplement.
Il est méchant comme ça.
Ah, il est méchant quand même, des fois. Hein. Alors, sinon, c'est la seule comédie musicale à l'affiche cette semaine à la télé. Et sinon, sur.
Elle passe où, tu l'as pas dit ?
Sur Canal Plus Cinéma. Ce soir,
il y a encore une autre diff sur Canal Plus Décalé.
Ouais, sur Canal Décalé demain, je crois, il me semble, quoi.
Okay.
Sinon, il y a également. Alors, ça, je crois que c'est lundi, hein, parce que j'ai pas noté le jour et là, je suis vraiment très. Non, c'est ce soir également. Ouais, c'est ce soir également. Sur Ciné Cinéma Club, un documentaire qui peut être assez intéressant et qui s'appelle Cinéma des Indes, un documentaire inédit de Fred Delec qui a été fait en 2007, inédit à la télé. Alors Cinéma des Indes, bon, bah, ça rejoint un petit peu le genre comédie musicale, quoique tout le cinéma indien n'est pas avec des clips musicaux, des machins et des trucs genre Bollywood, hein. Mais il y a quand même une forte tradition en Inde, hein, en ce qui concerne ce qu'on appelle, nous, la comédie musicale. Donc c'est pour ça.
Puis l'Inde,
que
l'Inde est le deuxième producteur, non, premier actuellement.
Premier, ouais.
Quoique la Chine est en train de les doubler. Hein.
Ouais, mais bon, il y a encore du monde d'ici là, quoi. Sinon, il y a aussi une petite série de films de guerre qui vont passer à la télé la semaine prochaine, avec ce soir sur RTNF l'excellent La Bataille des Ardennes de Ken Akin. Non, je ne suis pas ton père.
Mais très très bon.
Non, Ken Akin, je ne suis pas ton père.
Ouais, bon, le jeu de mots était un peu ardu.
Film date de 66, mais le casting est d'enfer avec Henry Fonda, Robert Shaw, Charles Bronson, Robert Ryan et Dana Andrews. qui aurait dû être Cary Grant à la place de Cary Grant, mais ça, ça ne regarde que moi, de toute façon. Demain, sur Canal Plus Cinéma, à 20h45, Redacted, le film de Brian De Palma, 2007, avec Izzy Diaz, Patrick Carroll, Mike Figueroa, entre autres, qui est un petit peu... Il a essayé de faire un remake de Outrage, mais actualisé avec la guerre de l'Irak et tout, mais bon, il paraît que ça tombe un peu à plat, quoi. Hein, que c'est pas aussi bien que Outrage, qui était vraiment un excellent film, hein, vraiment terrible, quoi. Et là, bon, bah ok, mais bon, c'est De Palma quand même, quoi. Il nous avait fait une petite merde, quoi, avec le truc qu'il avait fait juste avant, c'est-à-dire l'adaptation du Dalai Noir, mais là, bon, bah ok, il se reprend un petit peu. Et c'est surtout les moyens employés par Brian De Palma, c'est-à-dire bon, tous les moyens technologiques modernes qui rendent le film un petit peu intéressant, quoi, ou un petit peu nouveau, on va dire.
Bah, c'est non De Palma qui, à chaque fois, essaie de trouver, effectivement, comme tu parles de technologie, des moyens différents de filmer, des,
enfin, il expérimente.
Des concepts. Ouais, c'est toujours assez expérimental. Moi, j'avais adoré le premier quart d'heure de Snake Eyes, la version de Palma, ne pas confondre avec le Ferrara.
Oui, oui,
où,
oui.
Effectivement,
oui.
C'était un plan séquence, un faux plan séquence, parce que c'était quatre plans séquences.
Trois,
quand même.
Ouais,
bon, trois ou quatre, bref, de toute façon, c'était plusieurs maquillés en un sac.
Techniquement,
fabuleux. Et rien à redire. Mais c'est vrai qu'après, bah, moi je dirais qu'un film sur deux de De Palma est raté, un film sur deux est correct.
Après, c'est vrai que visuellement, c'est un metteur en scène sur lequel on ne peut pas faire de reproches, justement sur ses inventivités graphiques.
Tout à fait.
Ensuite, lundi, sur Ciné-Cinéma Classique, à 20h40, La Bataille du Rail de René Clément, en 1946, à la gloire des cheminots qui ont défendu la France en étant résistants, avec Tony Laurent, Lucien Desagneaux et Robert Leray, entre autres, ainsi que Redon. Le film rend très bien, hein, pour ceux qui n'ont jamais vu. Bon, c'est du noir et blanc, hein, bien sûr, hein, 46, évident. Mais vraiment, c'est fort, quoi. C'est très très fort, hein, comme film, quoi. C'est certainement plus fort que ce qui passera mercredi sur la chaîne Action à 20h40.
Aïe.
Les chiens verts du désert de Umberto Lenzi en 67 avec Horst Frank, un pseudo, Jeanne Valéry, un pseudo, Ken Clark, un pseudo, les bons films des Rital des années 60 et tout, on faisait tout et n'importe quoi. Et bah là, bah c'est l'occasion, c'est l'histoire d'une bande de mecs un petit peu allumés et tout qui rallient Casablanca parce qu'ils veulent essayer d'assassiner Roosevelt, De Gaulle et Churchill.
Yes.
Ça passe où?
La triplette.
Sur Action mercredi prochain.
Chaîne du groupe AB, ça.
À 20h40.
Ça a l'air terrible.
Jeudi, là c'est... Ouais, jeudi, là c'est du gros classique quand même, sur Direct 8 à 20h40, les 12 salopards d'Aldrich, hein, avec bon bah ok, le casting d'enfer, Lee Marvin, Bronson, Cassavetes, Sir Telleron, j'en passe et des meilleurs. Et vendredi, eh bien sur Ciné-Cinéma Premier, à 21h, Tigerland de Joel Schumacher, avec Colin Farrell. Ah oui, il y a Colin.
Ouais, ouais.
Quand il y a Colin, on peut regarder. Mais juste
c'est vrai, c'est vrai, il y avait Fun Game à deux Schumacher, pareil, avec Colin, qui était correct aussi. Mais c'est sincèrement, c'est les films les moins mauvais de ce réalisateur-là, et on ne citera pas les autres.
Non, non.
Sans Colin.
Par pudeur.
Voilà.
Et par manque de temps, surtout.
Aussi. Allez,
tout à fait, tout à fait. Eh ben, bah, c'est tout, hein, tu vois, quoi.
13h37, c'est la minute lit, et il est pile la fin.
Alors, JB.
Alors, JB, excuse-moi, mais peux-tu me faire le résumé pour tous ceux qui ont pris l'émission, s'il te plaît, en cours de route?
Oui, donc je vais essayer de me relire. Donc, Duce nous a parlé d'une chronique sur les SOP TV cambodgiens. Duce a encore réussi à coincer Xavier avec du MGB, c'est strictement sexuel, les photos sur le site internet.
Et n'oublions pas aussi l'interview de Daniel Maguin qui a eu lieu, qui a été diffusée tout à l'heure lors du festival d'Angoulême, ainsi que les séances dédicaces tout à l'heure de Stéphanie Mercier, Tous les jours la grande chose, une adaptation de son blog. Ça, c'est à la librairie Album. Et au même moment, Gisèle Joubert, Thierry Plus pour Dog et moi, c'est chez Gallimard.
Et comme j'avais pas fini, donc Duce a aussi réussi à faire son jardinier avec un arbre généalogique, et Duce a fantasmé sur le képi des douaniers en chantant Dark Commissar. Sur ce, je... Non, d'une simèse, ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, Duce va pouvoir réécouter exactement tout ce qu'on a dit pendant qu'il s'était esquivé 2 minutes. Vous pouvez donc écouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver des chroniques écrites. Fouillez dans nos archives et jouez à des quiz stupides. Laissez vos commentaires.
J'ai remis le quiz Dr. Wood, d'ailleurs.
D'accord.
Je sais pas si vous l'avez vu.
Lire, non, pas encore. Lire exactement ce qu'a marqué Xavier parce qu'il a pas dit de conneries cette semaine. Posez vos questions, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct en alternance avec Booster FM. Point. Et on continue sur
www.radio-fm.net.
Dans le prochain épisode, tu l'as déjà dit, donc on se retrouve la semaine prochaine.
Non, dans le prochain épisode, plus.
Plus, Thierry, pardon. Thierry, plus. Pour son premier album plus Dog et moi, qui est en dédicace aujourd'hui à partir de 15h à la librairie Gilbert Joseph.
C'est un excellent polar en couleur directe, je vous le recommande. Un truc aventureux, vraiment, vraiment poilant.
Et si vous voulez voir la tête de Xavier Plus, mais vous y allez aussi. Voilà.
Voilà. Et sinon, rendez-vous sur le site internet supplementweekend.fr. Nous, on se retrouve
la semaine prochaine, même heure, même fréquence.
Voilà, et puis sachant que, attention, parce qu'on est à l'approche du 1er avril, et comme chaque année, en général, il y a un temps de poisson à l'antenne. See you, ciao, bye bye.
Ciao.
Merci.